Nous étions restés la semaine dernière dans le Cantique des Cantiques. À partir de maintenant, on va changer un petit peu de parcours. Nous allons parcourir les grandes doctrines de la Bible à travers différents textes. Et finalement, le premier texte est dans le livre qui suit le Cantique des Cantiques. C'est Ésaïe, chapitre 1 et verset 5. Ésaïe 1, verset 5, qui nous dit « À quoi bon vous frappez encore, vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. » Et donc, ce matin, avec ce texte, nous allons parler du péché de l'homme. La première doctrine sera le péché et l'homme, finalement. Et on va se poser la question, jusqu'à quel point l'homme est-il déchu, comme dit la Bible, après la chute, jusqu'à quel point est-il mort? Et on va poser des questions un petit peu à différents personnages. D'abord, on va interroger les humanistes, les philosophes, comme Jean-Jacques Rousseau qui a écrit que l'homme est naturellement bon, mais que c'est la société qui le déprave. Alors, est-ce que c'est ce que dit la Bible? L'homme est naturellement bon? Non, c'est sûr que la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que l'homme est naturellement mauvais, naturellement pécheur. Regardez ce que dit David, psaume 51, verset 7. David, qui dit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, je suis déjà marqué par le péché. » Donc, dès la naissance, nous sommes héritiers d'une nature pécheresse. Nous naissons pécheurs. Il y a un autre philosophe qui va quand même s'opposer à Rousseau sur ce plan-là. Il s'appelle Pascal, Blaise Pascal, qui dit « Il y a deux vérités. Il y a Dieu, dont les hommes sont capables, et il y a une corruption dans leur nature qui les en rend indignes. Il importe également aux hommes de connaître l'un et l'autre de ces points. Il est également dangereux à l'homme de connaître Dieu sans connaître sa misère, et de connaître sa misère sans connaître Dieu, qui peut l'en guérir. » Voilà, donc notre approche de Pascal. Posons la question maintenant à des théologiens catholiques comme Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien catholique. Lui, il va développer cette idée en s'inspirant aussi des philosophes grecs, que l'homme, il est déchu, sauf dans sa raison. Il est déchu sur tous les plans, physique, etc., mais pas dans sa raison. C'est-à-dire que l'homme serait capable de connaître Dieu, de comprendre Dieu par son intelligence et son raisonnement. Ça aussi, c'est faux, bien sûr. Éphésiens 4, versets 18 et 19 nous dit, Éphésiens 4, versets 18 et 19 nous dit que, en parlant des êtres humains, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc déjà, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Un autre théologien qui s'appelle Calvin dira « L'homme est mort, il est tellement mort qu'il est incapable de se repentir et de croire. Dieu donc choisit certains pour les régénérer par son esprit afin qu'ils puissent se repentir et croire. » Il n'y a pas trop le choix, Est-ce que ça c'est vrai? Je crois que c'est faux aussi, On va lire le texte qui sert de base à tout ça, c'est Éphésiens 2, verset 1, et on va développer ensuite cette question. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être mort dans la Bible? Mort aux yeux de Dieu. Regardez, Éphésiens 2, verset 1, qui est important, il dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois ou dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous étiez morts. » Alors, de quelle mort parle Paul ici? Il parle d'une mort spirituelle, faut bien la comprendre. sont tout à fait d'accord que l'homme est spirituellement mort. L'homme, il est comme une voiture dont la batterie est morte. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle n'avancera pas. Si on peut faire avancer la voiture avec une batterie qui est morte, si vous la poussez, ou si vous la remorquez. Mais c'est vrai que l'homme, même en étant spirituellement mort, il a une vie religieuse quand même. D'où toutes les religions, l'homme, il essaie d'entrer en contact avec Dieu par des rites, des prières, etc. C'est un peu que, voilà, comme une voiture, c'est-à-dire que, vous pouvez dire, moi, ça m'était arrivé une fois d'être remorqué, vous savez, ma voiture était en panne et j'étais remorqué. J'étais là au volant, je manœuvrais le volant et j'avais l'impression de conduire ma voiture, elle roulait. Mais c'était une apparence, parce qu'en fait, j'étais remorqué par une autre voiture. Et c'est exactement ce qui se passe avec les religions aujourd'hui. Les gens, ils pensent être spirituels, mais ils sont morts, spirituellement. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est... Alors, on est tout à fait d'accord que l'homme est mort spirituellement, il n'a pas de communion, de relation avec Dieu. Comment l'homme peut-il trouver cette vie spirituelle? Comment peut-il naître de nouveau, comme dit la Bible? La question va, comment et quand ça se passe? Alors, voyons un peu que dit la Bible. Je vous pose une question. Dans la Genèse, vous connaissez l'histoire, Dieu a prévenu Adam et Ève. Il a dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'il est mort ce jour-là? Quelqu'un qui dit ça, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Dieu l'a dit qu'il va mourir. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est mort comment? Spirituellement. Voilà, ça, c'est important. La mort ici, c'est une mort spirituelle, ce n'est pas une mort physique. Ça va venir. Mais première chose, c'est la mort spirituelle, c'est la coupure d'avec Dieu. C'est comme un fil qui a été coupé, comme une batterie qui ne marche plus, une ampoule qui se grille, et c'est fini. Là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Il n'est pas mort physiquement. Même si le processus de mort est enclenché. Adam va mourir un jour. Il va vivre longtemps, mais il va mourir. Et nous aussi. Sauf si le Seigneur revient. Quand Dieu a créé notre corps, quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a constaté par rapport à cette création? Il a dit que c'était... Hein? Bon. Très bon. C'est-à-dire que Dieu a créé un corps parfait, hein, comme il a créé toute la création parfaite. Et malgré le péché, malgré les maladies et malgré la mort, David, des centaines d'années plus tard, peut dire dans le psaume 139, versets 13 et 14, quelque chose d'étonnant. Hein, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, il s'adresse à Dieu, et lui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous vous rendez compte? David est pécheur. Ça fait des générations de péchés, hein, de pécheurs, péchés transmis. David est mortel, il a les mêmes problèmes que nous spirituellement, mais il peut dire, je suis une créature merveilleuse. Et nous l'avons vu la semaine dernière, dans le Cantique des Cantiques. Ce cantique qui décrit la beauté du corps humain. Vous savez, c'est un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, malgré le péché, il a laissé quand même des traces et des preuves de son amour et de sa grâce, avec quand même des corps qui fonctionnent bien. Ça fait quand même pas mal de temps que ça marche quand même. Hein, de génération en génération, la vie est transmise, hein, avec la beauté, avec... plein d'autres conséquences. Prenons aussi le fils perdu ou le fils prodigue. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue qui est parti, il a dépensé tous ses biens, et puis un jour il va revenir, on va en reparler après, mais que va dire son père? Il va dire, il faut se réjouir maintenant, parce que mon fils, que voici, était mort. Il était mort? Il était mort physiquement? Non, il était mort comment? spirituellement, ou en tout cas dans sa relation avec le Père. Voilà, c'est ça. Donc la mort dans la Bible, c'est d'abord une mort spirituelle. Et si vous n'avez pas encore donné votre cœur et votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes mort spirituellement. Vous pouvez avoir toutes les religions que vous voulez, toutes les prières, toutes les pratiques, vous êtes mort spirituellement. C'est cette mort-là qui est la mort la plus tragique. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Posons-nous la question maintenant, on a vu que l'être humain, il n'est pas, quand Dieu dit tu mourras, ce n'est pas d'abord la mort physique, hein, c'est la mort spirituelle, ça sera aussi la mort physique après. Est-ce que l'être humain est mort intellectuellement? Non. Non, parce que là, l'être humain, alors là, il n'arrête pas de penser. Hein. On n'arrête pas de penser, on n'arrête pas d'écrire, on n'arrête pas de créer. Justement, tout de suite, pratiquement, enfin, dans la Bible au moins, après la chute, Genèse 4, regardez l'activité humaine. Hein? Genèse chapitre 4, à partir du verset 17, on voit que les premiers descendants de Adam et Ève, ah, ils sont très actifs. Hein? Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Enoch construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Donc, construire une ville, ça demande de l'intelligence, de la réflexion, hein, du travail. Plus loin, on va aller un peu plus loin au verset 20. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Donc là, pareil, hein, construire des tentes, fabriquer des tentes, élever des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alors là, voilà, on voit aussi là. La musique, les arts, hein. L'être humain, voilà, Dieu, malgré la chute, malgré le péché, Dieu a donné à l'homme la capacité de créer, d'inventer, de composer, d'écrire. Hein. Et de son côté, Tsila a mis au monde Tubal-Caïn, il forgeait tous les outils en bronze et en fer. Voilà, et là, c'est tout ce qui est voilà, travail manuel. Hein. Quand on contemple tout ce que l'homme a fait, c'est prodigieux, hein, hein. Mais, malgré toute son intelligence, l'être humain ne parvient pas à connaître Dieu. Romain dira que le cœur de l'homme est sans intelligence. Et 1 Corinthiens chapitre 1 nous dira, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 même, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il nous dit que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà, tant qu'il manque cette dimension spirituelle à l'être humain, tant qu'il est mort spirituellement, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Alors, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On peut être très intelligent, très brillant sur le plan humain, scientifique, technologique, mais avec toute la sagesse, toute sa sagesse, l'homme ne peut pas connaître Dieu. C'est un Corinthien qui nous le dit aussi. Je cite ici un théologien protestant du XVIIe siècle qui s'appelle Claude Pajon. Il dit « Le péché n'a pas enlevé à l'homme toutes ses facultés intellectuelles. » Ce n'est pas parce que l'homme il est devenu pécheur qu'il est devenu nul. Hein. Il n'a pas enlevé ses facultés intellectuelles, ni sa capacité d'en user, hein, de les utiliser. Ce qui lui manque, c'est la connaissance de la vérité. D'où l'importance de la faire connaître, d'évangéliser, de diffuser la parole de Dieu. Hein. C'est ce que dit Romain, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Hein, ou c'est Éphésiens qui dit ça. Et cet auteur dit aussi que la volonté ne peut obéir sans avoir auparavant une idée de ce que Dieu ordonne. C'est-à-dire, pour obéir, pour croire, il faut savoir ce que Dieu attend. Et naturellement, l'homme ne le sait pas et ne le découvre pas. Les philosophes ne découvrent pas le moyen de salut. Le moyen de salut, il est là, il est dans la parole de Dieu, il est enseigné là. Il est révélé ici, c'est à nous chrétiens de le faire connaître. Parce que la véritable intelligence, dira Jérémie, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est ça. Est-ce que l'homme est mort moralement, je veux dire sur le plan de son âme? Alors, on peut dire oui et non, on va voir. Hein. Mais l'âme, il faut dire, c'est le siège de l'intelligence, on en a parlé. C'est le siège des pensées, hein, de la réflexion, on a vu tout ça. C'est le siège des émotions aussi et de la volonté. Alors, concernant les émotions, les sentiments, on peut dire que l'être humain, il est bien vivant à ce niveau-là. Hein. Mais, hélas, se côtoient le meilleur et le pire au niveau des émotions humaines. Parce que l'être humain, il est capable d'amour, même s'il n'est pas croyant. Il est capable de dévouement. Il y a des humanitaires qui ne sont pas du tout chrétiens, pas du tout croyants, et qui se dévouent pour les autres. Hein. On ne peut pas le nier. Mais aussi le pire peut se trouver dans le cœur de l'être humain. La violence, les guerres, chez des peuples qui se prétendent chrétiens. N'oublions pas ce qui s'est passé en Allemagne, hein, lors de la dernière guerre, hein, comment ce peuple civilisé, chrétien, entre guillemets, a pu sombrer dans la barbarie. La joie est une émotion qui est propre aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Regardez ce que dit Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 17. La joie, c'est un don de Dieu. C'est l'Ecclésiaste qui nous le dit. La joie, elle est donnée à tous. Tout le monde peut éprouver de la joie. La naissance d'un bébé, d'un enfant, cette joie est la même chez un chrétien comme chez un non-chrétien. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela. Ça, c'est quel verset, ça? C'est verset 15 que je voulais. Verset 15 qui dit... Dans les générations, c'est acte 14, pardon, acte 14, verset 15. Voilà. Alors Paul, il parle avec les païens, il dit, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et puis il continue en disant, dans les générations passées, Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, voilà, il n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par le bien qu'il fait. Dieu fait du bien à tous. Il dit qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Hein. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Paul, il dit ça à des païens, à des non-chrétiens. Il leur dit, vous avez de la joie dans votre cœur. C'est un don de Dieu à tous. Même après la chute, Dieu a laissé des témoignages de son amour. N'oubliez pas que les roses, elles poussent sur des ronces. Vous avez tous expérimenté ça, n'est-ce pas? Vous avez tous piqué un jour sur un rosier. C'est ça. C'est le paradoxe, hein, voilà. Les ronces qui sont une malédiction. Après la chute, Dieu a dit, la terre te produira des ronces, des épines. Oui, mais Dieu, il a mis des roses dessus. La grâce de Dieu. La volonté humaine dans l'âme. Et là, c'est pareil. Hein. L'être humain est capable de se surpasser, de persévérer dans le travail, dans les sports extrêmes. Chrétien ou pas chrétien, d'ailleurs. On voit des comportements surprenants. Mais en même temps, au niveau de la volonté, l'homme, il est capable de s'opposer à Dieu et de résister au Seigneur, malgré tout son amour. Regardez ce que dit Acte 7, verset 51. Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 51. C'est Étienne qui dit, « Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Vous êtes bien comme vos ancêtres. Cette opposition au Saint-Esprit, cette résistance de l'homme, des Juifs en l'occurrence, mais c'est vrai pour tous, hein. Rappelez-vous ce qu'a dit Pageon, la volonté ne peut obéir sans avoir auparavant une idée de ce que Dieu ordonne. Le problème, c'est que c'est là qu'il se trouve le problème, c'est que même si nous connaissons la volonté de Dieu, même si nous entendons l'Évangile, il y a en nous cette nature pécheresse qui affecte notre volonté, et qui fait que nous pouvons dire non et résister et nous opposer à cet amour du Seigneur. La volonté est affectée par le péché. Nous n'avons pas toujours de la bonne volonté. David priera dans ce psaume 51, « Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé, un esprit de bonne volonté. » Le cœur peut être endurci, on l'a vu. Et c'est ici qu'intervient déjà le Saint-Esprit pour me convaincre de mon péché. Le Père et le Fils, dont il est dit que tous les deux cherchent à nous attirer. Et c'est là qu'un fils prodigue, qu'un fils perdu, comme nous l'avons vu, mort pour son père, peut mettre sa volonté en œuvre et dire « Je me lèverai ». Regardez, Luc 18, verset 18. Luc 18, verset 18. Nous lisons... Alors, c'est pas Luc 18... Luc 15. Une erreur de référence. Luc 15, verset 18. Je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà. Notre version dira, je me lèverai. Voilà, donc la volonté, voilà. Alors, pour résumer, l'homme est pécheur. Nous sommes pécheurs en pensée, en parole et en acte. Si l'homme est mort spirituellement, il n'est pas mort sur ce plan-là. Je cite juste un verset dans la Genèse qui dit « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Vous vous rendez compte? La situation avant le déluge, c'était terrible. C'est au chapitre 6 de la Genèse, mais au chapitre 4, un peu avant, vous avez l'histoire de Caïn qui va tuer son frère Abel. Des pensées mauvaises, mais des actes mauvais, le meurtre tout de suite. Alors posons-nous maintenant la question, comment est-ce que Dieu opère le salut dans les cœurs et dans les vies? Et là, avant d'en parler, soyons humbles, si on peut ainsi parler, parce que le salut, c'est quand même quelque chose de spirituel, forcément, quelque chose de caché, de mystérieux, même si les théologiens de tout temps ont essayé de le décortiquer, de l'expliquer. Dieu seul sait ce qui se passe dans les cœurs, comment son esprit agit, comment sa parole travaille. Parfois, quand on entend des témoignages, et si vous réfléchissez à votre propre conversion, peut-être vous pouvez trouver des éléments de réponse, dire voilà comment est-ce que Dieu a agi en moi. Mais ne prétendons pas tout expliquer et tout comprendre. Comment est-ce que Dieu sauve ? Le pasteur Miara a une formule impossible qu'il utilise, qui dit « Le salut, c'est 100% l'œuvre de Dieu et 100% l'œuvre de l'homme. » Et je crois que ça résume bien voilà, ce côté caché du salut qui passe dans les cœurs. Néanmoins, on va voir que pour amener au salut, personne ne se convertit comme ça. C'est-à-dire tout d'un coup, là... Quelqu'un qui n'a jamais entendu l'évangile ou qui ne connaît rien ne va pas se lever le matin et dire « Voilà, je suis chrétien maintenant, je crois en Jésus-Christ, il n'a jamais entendu parler. » Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il soit mis en contact avec certaines choses. Alors, première chose que Dieu utilise, on va juste survoler comme ça, mais il utilise des instruments pour nous parler. Premier instrument qui est à la portée de tous, c'est le témoignage de la nature et de la création. Romains chapitre 1. Vous lisez ce chapitre, Dieu dit, voilà. Tout homme peut voir dans la nature, depuis les étoiles dans le ciel jusqu'aux plus petits insectes, le Créateur. C'est un témoignage. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. C'est un témoignage qui peut amener à croire à l'existence d'un Créateur, mais ça ne suffit pas. Chapitre 2 de Romains, il nous parle d'un autre instrument, c'est la conscience. Conscience, qui est en tout être humain, cette conscience dans laquelle Dieu a mis la pensée du bien et du mal, et Paul décrit ce combat qu'il y a parfois dans la conscience, surtout quand elle est confrontée à la loi de Dieu aussi, hein, on verra après. Mais ça ne suffit pas non plus, on ne peut pas connaître le Seigneur juste en se basant sur la conscience, parce que la conscience est affectée par le péché aussi. Puis on arrive à Romains chapitre 3, où là, Paul nous présente Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est offert. Dieu a pourvu pour le salut par le don de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui dira, tout est accompli sur la croix. Tout est payé, n'est-ce pas ? Mais pour connaître Jésus-Christ, encore faut-il être mis en contact avec la parole de Dieu, la Bible. Donc c'est très important de diffuser la parole de Dieu, d'annoncer l'Évangile. Regardez ce que dit Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques 1, 21. Elle nous dit, c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. La parole, c'est comme une semence qui est semée dans les cœurs quand vous donnez une Bible, quand vous témoignez, vous présentez l'Évangile. C'est comme une graine qui est mise dans les cœurs, elle est plantée là. Il faut qu'elle germe, voilà. Et elle peut sauver votre âme, voilà. Peut sauver votre âme. Voilà la puissance, la capacité de sauver. Comme disait Pajon, ce qui manque à l'homme, c'est la connaissance de la vérité. D'où l'importance d'évangéliser, hein, d'enseigner la Bible. Maintenant, cette parole par elle-même, elle a une puissance, mais elle a une puissance aussi de convaincre et de sauver, parce qu'il y a un autre instrument qui agissait. C'est quoi ? C'est qui ? Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Jean 16, versets 7 à 9, l'évangile de Jean 16, 7 à 9, nous montre que Dieu applique la parole de Dieu à nos cœurs, à notre conscience, à notre intelligence, à tout notre être finalement, par le Saint-Esprit. Donc, 16, verset 7 d'abord. Monter un peu en arrière. Voilà. Si je ne m'en vais pas, le défenseur, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et verset 8. Quand il sera venu, voilà, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. On peut s'arrêter là déjà. Donc, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, d'incrédulité par rapport à Jésus-Christ. Ça vous est arrivé parfois de parler avec quelqu'un, de témoigner et de chercher à le convaincre, je veux dire, à lui donner des arguments pour l'amener à la foi. Eh bien, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Hein. Il cherche à convaincre de péché parce qu'il ne croit pas en moi. La perdition, c'est dû à l'incrédulité par rapport à Jésus-Christ. Le travail du Saint-Esprit, l'application de la parole de Dieu par le Saint-Esprit à notre être, à notre intelligence, nos pensées, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a des témoignages de chrétiens qui ont eu un AVC et qui peuvent vous dire, moi j'ai oublié plein de choses de mon passé, mes souvenirs. Mais quelque chose que je n'ai pas oublié, c'est la parole de Dieu. Il y a des témoignages étonnants chrétiens, hein, donc, et, voilà, ils ont eu ce problème, mais la parole de Dieu, elle est restée, parce que c'est de notre niveau, c'est de notre domaine, c'est voilà, dans le monde spirituel, et ça, c'est quelque chose qui ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur. Donc, mémorisez la Bible, hein, apprenez-la, partagez-la, c'est quelque chose qui demeurera avec vous pour l'éternité. Un dernier instrument pour amener au salut, on a vu la nature, la conscience, bien sûr Christ qui a tout accompli, c'est fait. On a vu la parole de Dieu, on a vu le Saint-Esprit. Quel est le dernier instrument ? C'est nous, hein, c'est les chrétiens. C'est, voilà, Seigneur, allez, je vous envoie, allez, faites des disciples, hein, quand nous évangélisons, quand nous témoignons. Et j'aimerais m'arrêter sur la façon dont Paul s'implique dans le salut. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, verset 19, pardon. Non, 1 Corinthiens 9, 19, oui, c'est ça. 1 Corinthiens 9, 19. Paul y dit, en effet, « Bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Et puis verset suivant, « J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » On voit que Paul, il est vraiment impliqué hein, dans son témoignage sur l'évangélisation, à tel point qu'il parle de gagner ou de sauver. Sachant bien que c'est pas nous qui pouvons sauver, hein, c'est le Seigneur, ou pas nous qui pouvons vraiment gagner, c'est le Seigneur. Mais il y a vraiment cette idée de s'impliquer. Donc, et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que les chrétiens s'impliquent dans le témoignage, dans l'évangélisation. Nous sommes les instruments de Dieu. Nous sommes les pieds du Seigneur. Et puis regardez encore un dernier texte, toujours dans Corinthiens, chapitre 7, verset 16. Ce n'est pas le mot « gagner » qui est utilisé ici, mais c'est le mot « sauver ». C'est dans un chapitre sur le mariage, il dit « En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari ?» Ou « Comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme ?» On en revient à ce que je disais, hein, c'est le salut, c'est quelque chose de caché, hein, on ne peut pas garantir que la personne sera sauvée, mais voilà, si tu sauveras ton mari, si tu sauveras ta femme. Donc il y a un encouragement à s'impliquer dans cette œuvre de salut. Il faut que le chrétien comprenne qu'il est aussi un instrument de Dieu pour amener des âmes à connaître le Seigneur. Au-delà, bien sûr, de la parole de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, des choses qui sont beaucoup plus puissante que nous-mêmes, mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole de Dieu, voilà, nous sommes ces instruments entre les mains du Seigneur pour amener ces hommes, ces femmes qui sont morts spirituellement à une nouvelle naissance, à une nouvelle vie, à retrouver la communion avec le Seigneur, à goûter à la vie éternelle. Prions. Père éternel, nous te bénissons de ce que nous voyons, malgré la chute, toutes ces preuves de ton amour, Seigneur. La vie que tu continues à donner, génération après génération, Seigneur. Des enfants qui naissent, Seigneur. Des hommes et des femmes qui vivent, qui pensent, qui aiment, tout en étant pécheurs, Seigneur. Perdus. Mais parce que tu les aimes, Seigneur, tu leur as donné tous les moyens pour te connaître. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'Église missionnaire, Seigneur, l'Église et les chrétiens qui sont aujourd'hui tes témoins sur la terre. Tu n'as pas envoyé des anges, Seigneur, mais tu nous envoies, nous. Que nous soyons des ouvriers fidèles, Seigneur, partout où nous passons, pour répandre cette bonne nouvelle. Et Seigneur, sauve encore aujourd'hui. Gagne à toi des âmes, Seigneur, car toi seul peux attirer et sauver. Je te prie ce matin que si dans l'auditoire il y avait des personnes qui n'étaient pas à toi, Seigneur, qu'elles puissent ce matin comprendre que c'est le moment de te donner leur cœur et leur vie. Oui, si ce matin vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé, mais si vous avez compris qu'il suffisait de tendre la main à Christ, de dire « Oui, je crois, Seigneur. Oui, j'ai péché contre toi, mais tu as tout payé, Seigneur. J'accepte ton pardon, Seigneur. Je reçois comme une grâce la vie éternelle. Faites-le, dites-le au Seigneur ce matin. Il s'empressera de vous répondre. Seigneur, je veux te prier aussi pour tes enfants ici présents, pour que tu renouvelles leur zèle pour évangéliser, pour témoigner, Seigneur. nous sommes tes témoins sur la terre, Seigneur, les témoins de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous davantage d'enthousiasme pour parler de toi, pour répandre ta parole, Seigneur, sachant que le temps est court, tu reviens bientôt, Seigneur Jésus, il sera trop tard après. Ô Seigneur, motive-nous, remplis-nous de ton esprit et de ton amour pour les âmes, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.